31 pompiers calédoniens en route vers la métropole. Ils vont soutenir leurs collègues métropolitains, principalement dans le Var. Sur place, la situation reste sous tension. Retour en cours pour les élèves du lycée Saint-Jean 23 de Païta ce matin. Une organisation spécifique a été mise en place après l'incendie qui a notamment ravagé l'un des restaurants d'application de l'établissement. Ouvéa Île Morte, une opération à l'initiative du maire pour demander le retour des vols Aircal, le temps de discuter de la situation avec le nouveau président du gouvernement. Moderniser le système de santé, c'est l'objectif de la province Sud. Elle lance une expérimentation sur la dématérialisation des feuilles de soins. Les quelques 60 000 migrants qui ont afflué jeudi dans l'enclave espagnole marocaine de Ceuta sont tous repartis. Mais la situation a ravivé la crainte d'une crise majeure de l'immigration dans les pays européens. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal qui se prolongera avec le magazine des sports du lundi, comme chaque semaine. Bonjour Léo Fichou.
Bonjour Jean-François.
Et notamment du cyclisme ce matin dans la page consacrée au sport sur la scène nationale et internationale avec la suite du Tour de France féminin.
Et oui, après les hommes, place aux dames. Deuxième étape de ce Tour de France et deuxième victoire pour Lorena Vibes. La Néerlandaise s'est une nouvelle fois imposée au sprint à Genève. Elle conserve le maillot jaune de leader. Deux Français sont toujours dans le top 10. Cédrine Kerbaol, 6e. Pauline Ferrand-Prévot, 9e.
En Calédonie, nous reviendrons sur le trail de l'espoir qui a remporté un vif succès hier.
Oui, plus de 1100 participants, c'était dans le Grand Sud à l'initiative des Kiwani du Mont d'Or, trail de l'espoir organisé par Pro Events. Et à l'arrivée, c'est Tom Lacombe qui s'impose chez les hommes, Emmanuel Favard chez les dames.
Et puis nous parlerons surf aussi dans le Mac des Sports.
Nous serons en compagnie de Joëlle Lebréus, présidente de la Ligue calédonienne de surf. Nous reviendrons avec elle sur l'actualité de la discipline, les différentes compétitions de la saison et surtout sur les Jeux du Pacifique 2027 en Polynésie française, puisque le surf sera au programme.
Merci Léo, on vous retrouve à la fin de ce journal pour le Mac des Sports du lundi. 31 sapeurs-pompiers calédoniens envoyés en renfort en métropole. Ils ont quitté la Nouvelle-Calédonie hier soir pour aller aider leurs collègues mobilisés depuis des semaines contre les incendies qui ravagent le territoire national. Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des risques a sollicité les territoires ultramarins afin de constituer des détachements terrestres spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt. La Nouvelle-Calédonie a répondu favorablement au nom de la solidarité nationale et alors que de nombreux pompiers métropolitains étaient venus en renfort sur le territoire lors des violences insurrectionnelles de mai 2024, Nicolas Legrand.
Oui, ce détachement de 31 soldats du feu est composé de 19 pompiers municipaux de Nouméa, d'Imbéa, du Mont-d'Or, de La Foy, de Bouraille et de Conné, ainsi que de 12 sapeurs-pompiers de la sécurité civile. Durant leur mission, d'une durée maximale de 3 semaines, ils viendront en aide à leurs collègues, épuisés par la lutte de plusieurs semaines contre les incendies qui sévissent actuellement en métropole et notamment dans le Var. Ils seront sous les ordres du commandement opérationnel de zone sud, c'est-à-dire pour les régions occidentales. Occitanie et PACA. Le commissaire Jacques Billon était présent hier soir pour saluer leur engagement et préciser quelle sera leur mission.
Ce sont 31 sapeurs-pompiers calédoniens qui n'ont pas hésité une seule seconde à répondre à l'appel à solidarité nationale pour rejoindre leurs collègues qui sont engagés depuis maintenant un mois pour combattre des incendies d'une violence inouïe. Ces sapeurs-pompiers le font dans la durée, dans des conditions extrêmement difficiles. Il y avait besoin d'aide et nos sapeurs-pompiers calédoniens vont donc rejoindre le sud de la France pour être engagés dans le cadre du commandement opérationnel de la zone sud et rejoindre tous les corps de sapeurs-pompiers qui sont engagés dans le sud du pays et qui vont poursuivre leur mission grâce à notre appui.
Le commissaire Jacques Billon qui tenait à être présent hier soir au centre d'intervention et de soutien spécialisé sud de la DSCGR au 4e kilomètre où étaient rassemblés avant leur départ les 31 volontaires.
D'abord leur exprimer la reconnaissance de l'État pour leur volontariat, pour l'esprit de corps dont ils font preuve, leur adresser mes remerciements, je dirais personnels, ainsi qu'au président du gouvernement, aux maires des communes qui lâchent leurs sapeurs-pompiers dans le cadre de cet appel à solidarité. Vraiment les remercier toutes et tous pour leur engagement et leur fidélité à leur devise courage et dévouement.
Aux côtés du haut-commissaire, les maires de Nouméa, Sonia Lagarde, de Dimbéa, Cynthia Jean et du Mont-d'Or, Nina Julier, ainsi que le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, qui a pris la décision d'autoriser ses renforts à partir en métropole.
Il était, je crois, de notre devoir, de notre responsabilité, de renvoyer l'ascenseur. Parce que la solidarité nationale s'exerce pas seulement dans un sens. La France nous a aidés pendant les émeutes de mai 2024 avec l'envoi des forces de l'ordre et des pompiers, parce que notre pays était en proie aux flammes. Maintenant, je crois que c'est à notre tour d'aider la France, depuis quelques jours, depuis quelques semaines maintenant, est en proie aux flammes. Et donc c'est, je crois, la première décision que j'ai eu à prendre après l'élection vendredi, c'est d'autoriser les pompiers de la DSGR à se rendre à Paris. Malgré les différentes collectivités qui participent à l'effort de guerre, ce soir, ces 31 pompiers, quand ils vont prendre l'avion, ce seront des pompiers de la Nouvelle-Calédonie. Donc je souhaitais les encourager, les féliciter, surtout leur dire qu'il faut qu'ils nous fassent honneur à notre pays. C'est un fragment de la Nouvelle-Calédonie qui s'en va avec eux et qu'ils montrent notre façon d'être, notre façon de vivre, et surtout qu'ils nous reviennent sains et saufs.
Ce détachement de 31 sapeurs-pompiers calédoniens permettra de constituer deux groupes feux de forêt avec leur chaîne de commandement. Il sera sous la responsabilité du commandant Anthony Guépy, qui souligne que les moyens suffisants de sécurité publique sont assurés en Nouvelle-Calédonie.
Il a fallu qu'on réfléchisse à qui envoyer sans désarmer les casernes, parce qu'il faut maintenir le potentiel opérationnel dans les casernes. Donc chaque chef de centre, chef de corps a dû faire un choix en fonction des compétences et en fonction de son planning pour le mois d'août, afin de libérer du personnel sans impacter la sécurité pour les Calédoniens. Et c'est quand même historique ce qui se passe ce soir, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un détachement de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie part renforcer la mère patrie et la France, quoi. Donc c'est quand même historique pour nous et on est tous très heureux, je pense, et très impatients aussi de montrer qu'on est là pour aider, peu importe la mission.
De nombreux sapeurs-pompiers calédoniens ont manifesté leur volonté d'être projetés en renfort. Ceux qui sont partis ont été sélectionnés en fonction de leurs compétences et habilitations pour couvrir l'ensemble des fonctions opérationnelles requises. Ils sont donc 31 sapeurs-pompiers calédoniens, parmi lesquels 6 personnels féminins, à avoir pris l'avion cette nuit pour rejoindre la métropole. Et c'est pour eux une fierté d'avoir été sélectionnés et de pouvoir aider leurs collègues métropolitains.
Sergent-chef Genois Desclats, je suis sous-officier en sécurité civile. Après avoir discuté avec la famille et tout, beaucoup le côté de solidarité de chez nous qui ressort suite aux événements 2024 qui sont venus nous renforcer pendant un an et demi. Puis voilà, c'est un peu le retour, on va dire. Ça va être beaucoup d'échanges aussi avec nos collègues métropolitains sur leur façon de travailler et puis notre façon de travailler aussi. Et puis ce sera un bon moment d'échange.
Le lieutenant Dorian Bré, je suis actuellement agent de la direction de la sécurité civile. J'occupe le poste de responsable des unités spécialisées. Quand l'appel à candidature a été lancé, ça a été quelque chose de naturel pour moi de me porter volontaire. Tout d'abord, une fierté de pouvoir représenter la Calédonie et décider d'aller aider avec toute l'humilité qu'on a et le respect qu'on a en Nouvelle-Calédonie. J'espère qu'on arrivera à partager. Je ne sais pas trop quoi dire, ça se mélange un peu. On est fiers, on est contents, mais en même temps, on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous attend. Donc c'est beaucoup de choses mélangées, mais vraiment un sentiment de fierté d'être avec tous les collègues ce soir.
Les dépenses liées au transport, à l'hébergement, au déplacement, à la nourriture sont prises en charge par l'État dans le cadre de la projection. Le gouvernement et les communes assurent la rémunération le temps de la durée de la mission. Le gouvernement qui affirme dans un communiqué que l'engagement des pompiers témoigne d'un esprit de solidarité réciproque envers celles et ceux venus renforcer la Nouvelle-Calédonie lors de crises, comme les violences urbaines de 2024 ou encore les saisons des feux. À travers cette mobilisation, la Nouvelle-Calédonie réaffirme pleinement son attachement aux valeurs de solidarité nationale et d'entraide entre les territoires. Fin de citation. Dans un communiqué, la ville de Dimbéa indique que par cette mobilisation, elle réaffirme son attachement aux valeurs de solidarité nationale et d'entraide qui unissent les territoires face aux catastrophes. Le maire du Mont-d'Or, Nina Julier, salue quant à elle l'engagement exemplaire de 5 sapeurs-pompiers volontaires de sa commune qui porteront avec honneur les couleurs du Mont-d'Or, de la Nouvelle-Calédonie et les valeurs de courage, de dévouement et de fraternité qui font la force de nos casernes. Fin de citation.
Et j'ajoute que les 31 pompiers calédoniens seront rejoints par 19 sapeurs-pompiers de Polynésie française qui, eux, viendront prêter main forte aux soldats du feu mobilisés en Gironde.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Approuvez-vous l'envoi de sapeurs-pompiers calédoniens en métropole pour participer au titre de la solidarité nationale à la lutte contre les méga-feux de forêt? Si vous l'approuvez, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et pour poursuivre ce journal, nous retrouvons comme chaque lundi la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
On va bientôt pouvoir relâcher la touche pause qui suspendait plus ou moins les dossiers politiques, économiques et sociaux. Un peu plus d'un mois après les provinciales du 28 juin, les institutions calédoniennes sont à pied d'œuvre et il ne reste plus que la répartition des secteurs et la fameuse déclaration de politique générale du président du gouvernement pour entrer véritablement dans le vif du sujet. Et il était temps, parce que les dossiers s'accumulent et que la tâche qui attend les 11 membres de l'exécutif s'apparente un peu aux 12 travaux d'Hercule, une série de tâches extrêmement difficiles qui avaient été imposées aux héros grecs pour expier une crise de folie. Une analogie parfaite, tant les dossiers brûlants qui attendent le gouvernement sont dus en grande partie à la crise de folie de mai 2024 et à ses dramatiques et incalculables conséquences. C'est un gouvernement de mission et d'action qui a été mis en place, un gouvernement de responsabilité qui doit s'attaquer à la relance économique, au redressement des finances publiques, au renforcement de l'attractivité du territoire et à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Cela passe notamment par la création d'emplois, le retour de la confiance et de la prospérité, mais aussi la lutte contre la délinquance des mineurs, l'équilibre des comptes sociaux ou la restauration du système de santé. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Il faudra réformer. Et pour paraphraser Churchill, la nouvelle équipe gouvernementale aura surtout à offrir du labeur, des larmes et de la sueur. Pour relever le défi, c'est un gouvernement qui réunit des anciens et des nouveaux, des politiques et des techniciens, des personnalités expérimentées et des novices, avec une pincée de société civile. Une association un peu hétéroclite, un peu improbable, dont on attend des prouesses pour sortir la Nouvelle-Calédonie de la crise économique sans précédent dans laquelle l'ont plongé les violences insurrectionnelles. Et pour cela, il faudra faire l'union sacrée, notamment face à l'État, ne serait-ce que pour boucler le budget 2027. Le pacte de gouvernance qui a été conclu entre les loyalistes, le Rassemblement et l'Éveil océanien est censé offrir de la stabilité à l'équipe gouvernementale. Et c'est déjà beaucoup, parce que le travail en profondeur qui l'attend ne pourra se faire que dans la durée, même si quelques mauvais esprits parient déjà sur sa fragilité. Le pacte a eu la sagesse de mettre de côté la question institutionnelle, mais elle est forcément sous-jacente. Et c'est sans doute l'une des faiblesses de la nouvelle coalition, d'autant plus que pour la première fois, c'est un parti minoritaire, qui n'a même pas de groupe politique au Congrès, qui se retrouve à la tête du gouvernement. Un parti charnière qui, ces dernières années, s'est fait une spécialité des retournements d'alliance. Il invoque aujourd'hui la division du camp indépendantiste pour justifier son choix de s'allier aux partisans de la France. Mais un changement de la donne politique pourrait avoir des conséquences sur l'équilibre trouvé au Congrès et au gouvernement. D'autant plus que les indépendantistes paient à l'évidence les conséquences des émeutes, avec la mise en place d'une sorte de cordon sanitaire autour de l'UCFLNKSCCAT, qui avait déjà vu la présidence de la province Nord lui échapper, et qui n'a pas non plus obtenu la vice-présidence du gouvernement. Apparemment, ça ne fait pas de drame pour l'instant, même si Joato Wamitan relève que c'est une entorse à l'esprit de l'accord de Nouméa qui prévalait. Mais il ajoute qu'il faut travailler dans la collégialité. Et le vice-président Christopher Gigès renchérit en expliquant que la donne politique est différente, mais que cela ne va pas les empêcher de travailler tous ensemble. De toute façon, ils n'ont pas le choix étant donné la situation. Et même si l'équilibre trouvé s'apparente, sous certains aspects, à de l'équilibrisme.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que vous retrouvez sur notre site internet et que vous pouvez aussi réécouter cet après-midi après notre flash de 16h. Notez que l'installation du 19e gouvernement est saluée par le Premier ministre dans un message sur X. Sébastien Lecornu écrit que les Calédoniennes et les Calédoniens se sont exprimés sereinement lors des élections provinciales de juin et qu'ils ont envoyé un message clair, celui de l'urgence des réformes, de la reconstruction économique, de l'amélioration du quotidien et d'une attention particulière portée à la jeunesse. Le Premier ministre ajoute que cette nouvelle mandature devrait être au service de tous les Calédoniens dans un esprit de responsabilité, de dialogue et d'intérêt général et que comme il s'y est engagé, l'État sera au rendez-vous en poursuivant dès le prochain projet de loi de finances son soutien à la refondation économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Fin de citation. La ministre des Outre-mer félicite elle aussi sur X Mila Kouloutou-Koumouli et l'ensemble des membres du gouvernement. Naïma Moutchou leur souhaite pleine réussite dans l'exercice de leurs responsabilités au service de l'intérêt général et de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il est 11h et bientôt 45 minutes. Une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité sur le territoire et notamment retour en cours pour les élèves du lycée Saint-Jean 23 de Païta.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus, envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 7 août à 14h. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 40-20. Facture électronique? Pourquoi pas vous? Recevez votre facture par mail, c'est simple, gratuit et écologique. Vos factures sont sécurisées et accessibles à tout moment. Besoin d'aide? Appelez le 05 36 36, c'est gratuit.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
10 jours après l'incendie criminel qui a touché le lycée Saint-Jean 23 de Païta, la majorité des élèves a repris le chemin des salles de classe ce matin. Les cours avaient été suspendus pour la majorité d'entre eux toute la semaine dernière et une réunion s'est déroulée à l'heure de la reprise dans l'enceinte de l'établissement, Mickaël Juneski.
Un moment pour faire le point sur ce qui s'est passé et qui a affecté l'ensemble des élèves et des équipes du lycée Saint-Jean 23, l'établissement professionnel qui accueille tout au long de l'année près de 450 jeunes. Le directeur de l'ADEC était présent pour parler aux jeunes, Manuel Von Arscott.
C'est un drame, à mon sens, contre l'éducation. Voilà, on empêche nos jeunes, la jeunesse, d'accéder à un niveau de compétence. Voilà, c'est ça qui me chagrine et c'est qui me désole. Voilà, dès samedi soir, une fois l'émotion passée, voilà, nous avions déjà décidé en partant de quelques choses qu'on avait posées. Et dès dimanche matin, on a mis la machine en route, tous ici réunis, l'équipe du LP Jean 23, une partie de l'équipe de direction de la DEC. Certains institutionnels sont venus nous visiter, effectivement, et on a mis en place un véritable plan de bataille. Les élèves, nous ne pouvions pas les faire rentrer décemment dans des locaux où la fumée s'était répandue, où de la suie s'était répandue par terre, etc. Voilà, le temps de tout nettoyer. Je remercie ici encore une fois votre micro, toute l'équipe enseignante et au-delà qui sont venus donner la main pour nettoyer. On va déjà finir cette année correctement afin que chaque élève puisse avoir les bonnes conditions pour réussir son examen de fin d'année, notamment les CAP, également les autres, mais puisque c'est les bâtiments de CAP qui avaient été touchés.
Les premiers touchés sont en effet les jeunes en classe de CAP qui utilisaient cet outil de travail, le restaurant d'application La Case ainsi que la cuisine et les locaux à proximité. Les élèves étaient donc réunis ce matin, tout comme quelques parents et familles d'élèves qui tenaient à être présents.
Je suis en terminale CAP CSHR et j'ai 16 ans. Ben, je suis à moitié découragé que notre restaurant il a dû brûler.
Les élèves qui ont subi justement par ricochet une semaine de classe. Il y en a qui auraient souhaité être là pour donner la main, pour remettre en place. Bon courage surtout aux élèves. Hein. Allez, on continue. Et puis celui qui est au-dessus de tout le monde va continuer à veiller sur vous.
Les équipes pédagogiques se sont organisées pour faire face à l'impact de ces destructions, en priorité pour que les jeunes, et notamment les CAP, soient le moins pénalisés face à cette situation. La directrice du lycée, Stéphanie Stinff.
On a vraiment voulu la direction de l'enseignement catholique et l'établissement reprendre les élèves ce lundi. On a mis en place un moment et un temps fort avec les familles et les élèves de CAP cuisine et les CAP services des doubles niveaux. C'était important pour nous de les rassurer, de leur expliquer qu'on est dans la résilience et qu'on se relève et qu'on est en train de réfléchir à toutes les stratégies possibles à court terme, mais à long terme aussi pour dès la rentrée de l'année prochaine. Dans l'urgence pour cette semaine, on a modifié les cours dans d'autres ateliers. Ensuite, on a mis des sorties pédagogiques parce qu'elles étaient prévues déjà la semaine dernière et ça remet de la dynamique entre l'équipe et les élèves. Et puis, dès la rentrée des vacances d'août, les terminales devaient être en stage, mais on a rajouté les premières. Et chose exceptionnelle, avant qu'ils partent en stage, c'est souvent la galère pour qu'ils y soient. Mais là, on a sur 24 élèves de première CAP, on a 22 élèves qui sont en stage et on finalisera cette semaine pour que tout soit clôturé à la rentrée des vacances d'août.
Un point d'écoute a également été mis en place aujourd'hui avec deux psychologues présentes pour parler avec les jeunes tout au long de la journée s'ils le souhaitent. Je rappelle que 3 auteurs impliqués dans cet incendie ont été déférés vendredi dernier devant le tribunal de Nouméa. Il s'agit de 3 mineurs âgés de 15, 16 et 17 ans qui n'ont jamais été scolarisés dans l'établissement. Ils ont reconnu les faits. Le préjudice est estimé à 35 millions de francs. L'enquête se poursuit pour interpeller d'autres éventuels complices. Les 3 premiers mis en cause seront jugés le 24 août devant le tribunal pour enfants. Le parquet a notamment requis un placement en détention provisoire pour le mineur de 17 ans, déjà défavorablement connu de la justice.
Ouvéa, île morte. Une opération à l'initiative du maire Maurice Tilewa. L'aérodrome est bloqué depuis le 2 mars dernier par un collectif qui s'oppose au déménagement d'Aircal vers la Tontouta. Une situation que le maire juge invivable, Nicolas Legrand.
Oui, la mairie est fermée, le transport scolaire suspendu et le maire a invité les entreprises à rester porte close pour protester contre le mouvement qui asphyxie. ville. Économie à bout de souffle, difficultés d'approvisionnement, accès aux soins compliqués. Le maire d'Ouvéa, Maurice Tiléwa, appelle à la réouverture des vols pour permettre à la population de respirer.
Ça fait 5 mois que ça bloque. Ça fait 5 mois que les uns et les autres se font des promesses, mais le dossier n'avance pas. Ce n'est même pas un sentiment d'abandon. C'est carrément un abandon. Et en tant que maire, je ne peux pas laisser ma population continuer à souffrir comme ça. On a décidé de se dire que 5 mois, c'est suffisant, il n'y aura pas un 6e mois. On ne peut plus continuer à prendre en otage comme ça une population. Ce n'est pas possible. L'économie est au plus bas. Le personnel d'Aircal ne travaille pas. Il n'y a plus personne qui travaille dans les hôtels. Il y a de la pression partout dans les administrations, pour ne pas citer le centre médical. Ce sont des gens qui ont souffert de ces 2 derniers événements, la Covid et puis les événements du 13 mai. Donc aujourd'hui, on a besoin de rebondir, on a besoin de vivre, on a besoin d'aller de l'avant. Le mouvement d'aujourd'hui, c'est un mouvement de ras-le-bol, ras-le-bol.
Le maire d'Ouvéa, Maurice Tiléwa, est lui aussi opposé au déménagement d'Air Calédonie à la Tontouta et il demande à ce que les rotations se fassent depuis Magenta, mais pour autant, il souhaite que les collectifs desserrent les taux le temps des discussions avec le 19e gouvernement. Il craint également une montée des tensions aux îles liées au ras-le-bol des opposants au blocage.
On ne peut plus continuer à prendre en otage comme ça une population. Mais l'idée du collectif, elle est très noble, je l'ai dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, la commune a toujours été là pour aider les actions. Notre mouvement de ce matin, ce n'est pas pour tant tout ça. Aujourd'hui, on intervient pour dire que peut-être qu'il faut désamorcer parce qu'on va devant de graves problèmes. Il y a notre jeunesse qui commence à se mêler de cette histoire-là. Et comment demain on va pouvoir régler la situation quand la jeunesse va s'y mêler? Donc il vaut mieux prendre les devants et dire aux gens, non, soyons des personnes responsables et essayons de trouver des solutions. Et le mouvement d'aujourd'hui, c'est une des solutions. Pour tout simplement dire aux autorités compétentes qu'il faut trouver des solutions, puis dire aussi aux différents collectifs qu'il faut peut-être s'arrêter là et puis revenir un peu à la raison.
Et rappelons que le président du 19e gouvernement, Mila Kouloutou-Koumouli, se rendra à Lifou jeudi pour rencontrer le président de la province des îles, Michael Forest, mais aussi les collectifs d'usagers. Un signal positif selon le maire d'Ouvéa, Maurice Tiléwa.
Le coup de gueule du maire de l'île des Pins, Régis Vendégout, dans un communiqué. Il revient sur les incivilités quotidiennes qui touchent l'île et interpelle les autorités coutumières, les petits chefs, les chefs de clan et jusqu'au noyau familial et les parents proches des auteurs de ces incivilités. Après les dégradations subies dans les locaux d'un opérateur maritime, des vols constatés de lampadaires d'un terrain de sport, nous continuons de constater des méfaits autour de nous, écrit Régis Vendégout. Des actes de vandalisme et des vols ont été commis dans la nuit du 30 au 31 juillet au domicile du secrétaire général de la commune à Vao, quartier de Kéré. Par ailleurs, le seul commerce dans Vao a subi des dommages et des dégradations dans ses locaux. Ce week-end encore, des intrusions et dégradations ont été constatées au collège de Vao et dans les locaux des services techniques municipaux. Que dire de plus, interroge Régis Vendégout. Nous condamnons ces exactions, dit-il, qui se généralisent et il en appelle aux responsabilités de chacune de ces autorités citées face à la montée de la délinquance, face aux actes de vandalisme et de destruction. Nous ne devons pas rester insensibles à ces actes malveillants, écrit Régis Vendégout. La province Sud accélère la modernisation du système de santé et elle expérimente le déploiement de la feuille de soins électronique pour les bénéficiaires de l'aide médicale. Aujourd'hui, 90% des feuilles de soins sont encore traitées sous format papier, ce qui a représenté 215 000 feuilles de soins l'an dernier. À l'heure actuelle, 12 médecins participent à cette expérimentation, ce qui représente 110 feuilles de soins déjà transmises. À l'étude de la phase d'expérimentation, la télétransmission sera étendue progressivement à l'ensemble des professionnels de santé concernés. Aucune démarche supplémentaire n'est nécessaire pour les bénéficiaires de l'aide médicale. Un tout petit frémissement, mais l'activité n'est toujours pas au rendez-vous et les entreprises artisanales continuent de souffrir. Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat, a commenté ce matin sur RRB la note de conjoncture 2025 du secteur de l'artisanat. Et sans surprise, la situation reste compliquée depuis les émeutes déclenchées en mai 2024.
Sur 2025 et 2024, on a perdu plus de 2200 salariés dans les entreprises artisanales. On a perdu des compétences qu'il faudra aussi un moment retrouver. Par contre, on sent bien qu'il y a un tout petit frémissement avec un petit peu plus d'entreprises créées, mais nous devons être vigilants parce que ces entreprises créées, on sait très bien qu'une entreprise pour qu'elle puisse durer dans le temps, il faut au moins entre 3 et 5 ans de vie active pour pouvoir se maintenir.
Et c'est la raison pour laquelle la CMA a mis des formations et des dispositifs spécifiques pour accompagner les artisans qui créent leur propre activité. Quant aux entreprises établies depuis plusieurs années, la situation reste aussi compliquée.
Les chiffres d'affaires ont diminué pour certains de 50%, pour d'autres de 30%. Les trésoreries sont exsangues. Elles ont du mal à en obtenir aussi auprès des banques parce que les carnets de commandes ne sont pas là. Donc c'est un peu tous ces aspects qui aujourd'hui mettent encore à mal le tissu artisanal. Nos entreprises sont résilientes, mais je crois qu'on est arrivé au bout de la résilience. Les artisans ne peuvent plus faire autrement. 44% d'entre eux ont moins que le SMIC pour vivre aujourd'hui. Et donc, c'est une situation très préoccupante.
La présidente de la Chambre de métiers de l'artisanat attend maintenant de la part des institutions mises en place depuis les élections provinciales des réformes structurantes et elle plaide pour une prise en compte particulière du tissu artisanal.
Ce qu'on leur attend de concret, c'est de pouvoir avoir aussi un groupe de travail spécifique à l'artisanat, parce que souvent l'artisanat est englobé dans l'économie, mais nous avons beaucoup de très petites entreprises qui n'ont pas les mêmes difficultés et les mêmes besoins que les plus grosses entreprises. C'est pour ça que l'on avait fait des propositions spécifiques à l'artisanat. Aujourd'hui, effectivement, il y a des mesures sur les charges sociales, sur tous ces sujets, mais... les artisans ne peuvent pas complètement en bénéficier parce qu'ils étaient déjà en difficulté. Donc ça ne fait encore que reporter les charges qui pèsent sur eux. On est aussi réaliste. On sait que les caisses de la Nouvelle-Calédonie et de l'ensemble des institutions sont réduites. On est des gens responsables, mais je pense qu'il y a peut-être des économies à faire plutôt que de devoir prélever plus.
La CMA est ouverte aux réformes, nous a dit sa présidente, mais elle restera vigilante pour que ces réformes ne pénalisent pas les entreprises artisanales. Une interview d'Elisabeth Rivière qui est à retrouver sur notre site internet rrb.nc. À 11h57, une nouvelle pause et dans un instant, c'est l'essentiel de l'actualité en métropole. Nous ferons notamment le point sur le front des incendies.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Parole de bénévole, c'est avec la BNC, la banque qui soutient les héros du quotidien. Associations, sportifs, entrepreneurs, patentés, particuliers, étudiants, qui que vous soyez, découvrez Parole de bénévole tous les mardis à 11h et 16h avec la BNC.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal L'actualité en métropole avec Jean-François Bodin.
La situation sur le front des incendies est moins critique qu'elle n'a été, mais elle reste très préoccupante. À Carcassonne, il a fallu par exemple engager d'importants moyens alors qu'un incendie d'une voiture en feu sur le bord de l'autoroute s'est propagé à la végétation. 280 pompiers, 3 canadaires, 2 dash, 3 hélicoptères bombardiers d'eau ont été déployés pour éviter qu'ils ne s'étendent trop. Au final, il aura détruit une centaine d'hectares de végétation. Dans le Var, le feu est lui stabilisé, mais il n'est toujours pas fixé, a expliqué le préfet du département Simon Babre.
La journée a été une journée où on a déploré quelques reprises, deux principales reprises de feu qui ont pu être traitées grâce aux moyens aériens qui étaient prépositionnés, qui étaient prévus, et aux 1500 sapeurs-pompiers que nous avons sur l'ensemble du périmètre qui étaient au sol, prêts à intervenir également. La surface a un peu progressé, nous étions à 1800 hectares brûlés, nous sommes désormais à 1850 hectares, et une maison détruite de plus, donc le bilan des maisons détruites passe à 41. Il n'y a plus personne sur le périmètre de l'incendie qui soit sous le coup de mesures d'évacuation ni de confinement, puisque le village de Corinth, qui avait été déconfiné ce matin, reconfiné cet après-midi, midi est à nouveau non confiné.
Et rappelons que c'est dans le Var que les 31 pompiers calédoniens qui se sont envolés la nuit dernière vont prêter main forte à leurs collègues de métropole. En Gironde, la plupart des habitants évacués ont pu rentrer chez eux, sauf au Porge ou au Cap Ferret. Sur le bassin d'Arcachon, la commune d'Arès est de nouveau accessible, mais elle ressemble à une ville morte. Le reportage de Laura Legault pour Europe 1.
Le ciel est bleu, l'odeur de brûlé a disparu, mais les rues du centre-ville restent désertes. Les volets des maisons sont fermés. Jacqueline ne reconnaît plus son quartier.
Je suis frappée par le silence qu'il y a autour. D'habitude, à cette saison de l'année, on entend des cris d'enfants, l'aérien.
Seuls 2 commerces ont rouvert sur une dizaine. À la maison de la presse, les clients viennent surtout trouver un peu de réconfort.
Comment allez-vous ?
Oh, dur, très très dur.
Pascal, la gérante.
On a quand même pas mal de clients qui sont choqués de ce qui s'est passé, qui sont encore inquiets aussi par rapport à ce qui peut arriver.
Guy est rentré dès qu'il a pu, mais il reste sous le choc.
On ne se remonte pas facilement. On a encore les idées
très confuse. Le peu de fumée qu'il y a eu hier soir, on s'est dit, ça y est, ça redémarre. Et puis heureusement, les vents ont tourné.
Les habitants se font rares et les touristes aussi, ce qui inquiète les commerçants. Anaïs est caviste, elle a perdu 30 000 euros à cause de l'évacuation.
L'assurance, c'est assez compliqué. On a fait toutes les démarches, on attend un petit peu les retours. Le problème étant que nous sommes sur Arès, donc nous étions quand même relativement loin des feux. On a un petit peu peur pour la suite.
Elle espère que les touristes reviendront pour faire vivre l'économie locale.
La poussée de fièvre des pays européens sur l'immigration n'est pas retombée. Les quelques 60 000 migrants qui avaient réussi à pénétrer dans Ceuta jeudi, cette enclave espagnole au Maroc, ont finalement tous été renvoyés chez eux. Mais cet afflux massif et incontrôlé a généré de la crainte dans tous les pays européens. Le sujet sera d'ailleurs évoqué mardi lors d'une rencontre entre les ministres européens des Affaires étrangères de l'Union européenne. En métropole, le sujet de l'immigration, sans surprise, alimente les commentaires et sera aussi l'un des sujets de la campagne présidentielle. Alexis de la Fontaine.
À droite, Bruno Retailleau parle d'un électrochoc et affirme que les régularisations massives décidées par Pedro Sanchez ont créé un appel d'air. Le candidat des Républicains accuse le gouvernement socialiste espagnol d'avoir engendré cette crise migratoire. Selon lui, une seule solution, la fermeture temporaire de la libre circulation avec l'Espagne. Une conclusion partagée par le Rassemblement National. Marine Le Pen promet, je cite, de stopper cette folie en réservant dès 2027 la libre circulation dans l'espace Schengen aux seules nations européens. Ceuta, c'est l'avenir de la France si nous continuons avec la naïveté migratoire, résume Jordan Bardella. Chez les macronistes, le en même temps perdure. Gabriel Attal estime que nos frontières sont mises à l'épreuve, mais demande à l'Union européenne de régler la situation. Enfin, Jean-Luc Mélenchon continue sa stratégie de radicalisation et se démarque en proposant d'aider l'Espagne à accueillir ses migrants, alors que 83% des Français souhaitent réduire l'immigration.
Il est midi et deux minutes, c'est la fin de ce journal.